Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de quelque chose qui était vraiment l'enfer sur Terre.
Et oui, on disait même l'enfer vert, le bagne de Guyane. On peut condamner un coupable à la détention perpétuelle, ou le condamner à mort, mais pas le condamner à descendre plus bas qu'il n'est. Marc Rucard, ministre de la Justice du Front Populaire. D'histoire. Au début de l'été 1936, le garde des Sceaux du Front Populaire, Marc Rucard, demandait la suppression du bagne de Guyane. La peine doit être exemplaire et moralisatrice, lui avait dit le premier président de la Cour de cassation. Or, le bagne n'est ni l'un ni l'autre. Deux ans plus tard, le 17 juin 1938, le président de la République, Albert Lebrun, supprimait par décret la peine de travaux forcés en Guyane. C'était la fin d'un système qui, en moins d'un siècle, avait envoyé plus de 70 000 hommes dans les pénitenciers de Cayenne, de Saint-Laurent-du-Maroni ou des îles du Salut. Condamnés de droit commun ou déportés politiques, certains sont entrés dans la légende du bagne, comme le capitaine Dreyfus, Guillaume Sesnec ou Henri Charrière, dit Papillon. Mais la plupart d'entre eux y sont morts oubliés, dans ce qu'Albert Londres appelait l'usine à malheur.
Silence, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous. Au nom du peuple français, l'accusé ayant été reconnu coupable d'assassinat sans guet-apens et sans préméditation, de faux en écriture et d'usage de faux, la Cour condamne Sesnec Joseph-Marie Guillaume aux travaux forcés à perpétuité. L'audience est levée.
Cet avril quitte enfin Martin. Si sans nous sommes embarqués sur la Martinière, faire équage pour fauveux humains. Dans trois semaines, c'est la Guyane et c'est l'oubli. Flamme et fer, ici tu n'es plus. Pauvre Guillaume, que 49 302.
49 302, c'était le matricule de Guillaume Sesnec, un des bagnards les plus connus de Guyane, auquel mon invité d'aujourd'hui a consacré un livre, Bagnard, qui a été publié chez Talendier. Marion Godefroy, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans ce livre, vous rappelez que si la Guyane a été le plus connu des bagnes, il n'était pas le seul, ni le premier, qu'avant, il y avait eu d'abord les galères, et puis ce qu'on appelait les bagnes portuaires, qui se trouvaient en France métropolitaine.
Oui, ces bagnes portuaires sont précisément à Brest, à Toulouse, à Toulon et à Rochefort, et ce sont donc des anciens arsenaux de la marine et qui ne sont pas clos. C'est-à-dire que le bagnard, déjà à l'époque, il ne faut pas imaginer qu'il est forcément enchaîné avec son boulet, mais il a parfois un métier. C'est un ouvrier ou, comme c'est le cas à Brest, un professeur de mathématiques qui donne des leçons. Et finalement, toute cette chiourme finit par causer un préjudice à l'ensemble de la ville, puisqu'il travaille, mais à des tarifs évidemment bien moindres.
C'était là d'ailleurs qu'on trouvait des bagnards aussi connus que Vidocq ou romancés, hein, comme le Jean Valjean de Victor Hugo. Et alors, justement, il y avait tout un rituel. C'est assez surprenant de voir des bagnards ou des condamnés aux peines de travaux forcés, professeurs à Brest par exemple.
Oui, mais dans un autre sens, ça t'explique, puisque vous aviez des condamnations au bagne à temps et des condamnations au bagne à perpétuité. Et donc cette chourme devait bien vivre et faire vivre l'arsenal. Donc elle a toujours très tôt été utilisée par la marine et à des fins très pratiques.
Alors, on les enverra plus tard en Guyane. Alors, il faut rappeler, vous le faites, Marion Godefroy, que la Guyane était déjà depuis très longtemps une colonie française.
Alors la Guyane est une colonie française où des compagnies ont tenté de s'implanter au début du XVIIe siècle, en 1604, mais c'est une colonie un petit peu à part. Il ne faut pas imaginer les Antilles, il ne faut pas imaginer la Caraïbe, puisqu'elle est un petit peu en dehors de la route. Géographiquement, elle est sur le plateau des Guyanes, c'est-à-dire au nord du Brésil, au sud de la Guyane hollandaise et de la Guyane britannique. Elle est en dehors des routes et l'esclavage, les grandes plantations n'y ont jamais pris. De sorte que ce n'est pas ce beau fleuron que constituent les Antilles au XVIIIe siècle.
Ce qu'on appelle la France équinoxiale. Hein. C'est quand même rêvé. On disait peut-être que c'est le paradis, du moins de France. Et Voltaire, je crois, il y avait le mythe de l'Eldorado.
Il y a le mythe de l'Eldorado qui est exprimé dans un chapitre de Candide, et c'est un mythe qui perdure très longtemps puisque ça se voit très bien sur les cartes. On imagine qu'au centre de la Guyane, il y a le royaume du roi doré, il y a des Amazones et qu'on va trouver de somptueuses richesses. Et toutes ces cartes, toute cette mythologie s'exprime très tardivement, c'est-à-dire jusqu'au XIXe siècle.
On va vite déchanter cependant parce que pendant la Révolution, elle reçoit ses premiers condamnés. C'est pas encore des bagnards, mais vous rappelez qu'il y a eu déjà des prisonniers envoyés en Guyane, Madame Godefroy.
Alors, l'histoire de l'envoi de ces condamnés au moment de la Révolution française, ce sont quoi? Ce sont d'une part des déportés politiques, donc à dessein dont on choisit l'exil, et également quelques prêtres réfractaires. Alors, les registres mentionnent ex-trappistes, ex-moines, ce qui est assez drôle, et on les envoie à dessein pour mourir en Guyane, puisqu'en 1763, vous aviez eu une expédition remarquable qui était l'expédition de Kourou. Après la guerre de 7 ans, on voulait faire de la Guyane un nouveau Cadana. Manque de chance, si vous voulez, les 15 000 personnes envoyées sont mortes. Donc, quand on choisit, sous la Révolution française, d'envoyer des gens, on sait très bien qu'on n'attend pas leur retour.
Bio, Varennes, Collot-d'Herbois, donc des prêtres réfractaires, vous le rappelez, avant que, justement, on installe un bagne qui recevait son premier condamné en 1852. Il s'appelait Louis Prin, il avait le matricule numéro 1, c'était un charpentier condamné pour vol, le premier des 70 000 condamnés qui allaient se succéder jusqu'en 1938 en Guyane.
Actuellement, les condamnés aux travaux forcés sont réunis à l'île de Ré. Chaque année, un départ a lieu pour la Guyane et les îles du Salut, qui, depuis 1852, ont été désignés comme lieu de transportation. Les condamnés sont embarqués à bord du cargo La Martinière, spécialement aménagé pour leur transport. Après plus d'un mois de voyage, le navire arrive en vue du phare des Enfants Perdus, qui signale les côtes guyanaises et les trois îles du Salut. C'est en Guyane que se trouvent le pénitencier et les principaux camps de forçats. Quant aux relégués, ils vivent à Cayenne ou aux environs immédiats. En créant ce bagne, le législateur espérait obtenir les classifications indiquées par la durée des peines, autant que par l'âge et le caractère des individus.
Quand le petit sonneur de la rue de la Goutte d'Or chiffa 20 ans de travaux, 20 ans de travaux forcés pour avoir débroussé un vieux marchand de chevaux. À la Guyane, dans la savane, ça lui bouillonne là dans le cerveau. Dans sa gaboche, ici c'est moche, je m'évaderai de ce pointeau. Ce n'était pas ce qu'on appelle une mauviette, c'était un fort homme. Il cacha trois grandes lignes dans ses chaussettes de lingots d'or. Il suit une barque avec des allumettes et à l'aurore, coupant ses chaînes d'un seul coup de dent, il mit des voiles en ricanant.
Et c'était Totor, le roman d'un bagnard, chanté par Georgius en 1939, un an après la suppression du bagne, qui avait été ouvert en 1852. Pour quelle raison, Marion Godefroy?
Pour des raisons très floues. La première, l'esclavage est supprimé en 1848, et d'un seul coup, la Guyane perd toute une main-d'œuvre. Comment la remplacer? Donc on se demande s'il n'y aurait pas une autre main-d'œuvre servile possible. En France...
C'est des esclaves blancs, alors.
Des esclaves blancs, pour les Guyanais en partie. En France, comme je l'ai dit, il y a une concurrence hostile dans ces bagnes portuaires, donc on cherche à s'en débarrasser. Et puis, il y a un problème qui est comment gérer la grande criminalité en France, puisque les prisons se mettent en place, les centrales, fort tardivement. On y fait des séjours, mais ce sont des séjours courts, donc il y a la volonté pour la première fois d'aller outre-mer. Et à cela se mêle une dernière raison, qui est... pour un homme particulier qui est le prince Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, qui est très imprégné de toutes les églises anglo-saxonnes et notamment de l'expérience de l'Australie et donc de ce départ de convoi qu'a si bien donné Charles Dickens pour peupler, pour faire une colonie agricole. Cet ensemble de raisons font qu'on décide de créer et d'ouvrir les bagnes officiellement en 1854 par la loi.
Et colonisation, ça implique la présence de femmes, vous le rappelez aussi. Il y avait des femmes au bagne, ce que vous appelez les bagnardes des bagnards.
Tout à fait. Alors, cet idéal de colonisation, puisque donc la Guyane est une colonie un petit peu à part, pas tellement développée, on décide donc qu'il va falloir des mariages, il va falloir des enfants, on va fonder des familles. Et des femmes sont donc envoyées au bagne tout de suite. Mais alors, c'est assez curieux.
Pas comme prisonnières, quand même.
Si, comme prisonnières, tout à fait. Alors, au départ, on a une conception un peu curieuse des mariages, c'est-à-dire qu'on met les femmes sur une île et les hommes sur une autre. Donc, on imagine peut-être que par interaction de l'esprit, on va faire des enfants et favoriser les mariages. Et ensuite, on choisit de les mettre dans un endroit qui est dénommé couvent, à Saint-Laurent-du-Maroni, et elles sont gardées par les sœurs de l'ordre de Cluny, les sœurs des prisons.
Alors, ils étaient divisés, ces bagnards, en trois catégories. On l'a entendu un petit peu dans l'extrait d'archives de 1938. Il y avait les transportés, hein, ça a été créé, c'était la première catégorie de bagnards, qui étaient en fait des condamnés aux assises. C'était, au fond, les condamnés les plus graves, si je puis dire.
C'était les condamnés les plus graves. Sachant qu'une condamnation à l'époque des assises, encore aujourd'hui, en termes de droit, ça dépend de beaucoup de choses. Si vous effectuez un vol la nuit dans une maison habitée et en plus en escaladant un mur, tout de suite vous en avez pour 15 ans de travaux forcés. Alors que si c'est deux jours et s'il n'y a personne dans la maison, la condamnation est bien évidemment moindre. Cette transportation, vous avez également ce qu'on appelle les déportés. Les déportés, ce sont des politiques. Portée politique, l'image la plus célèbre est celle effectivement d'Alfred Dreyfus, donc qui sera tout seul sur l'île des Diables. Mais il y en a eu d'autres et ils ont un régime tout à fait à part puisqu'ils sont effectivement sur l'île du Diable. Ils ont une petite maisonnette et, chose curieuse, le droit de porter la barbe.
Il faut rappeler qu'il y avait un bagne qui a existé quelque temps pour déportés politiques aussi, qui lui avait été placé en Nouvelle-Calédonie.
Alors, il est plus tardif.
Après les années 70, puisqu'on envoyait les communards.
C'est ça. Louise Michel a notamment été sur l'île aux Pins, et c'est tout à fait particulier. Et c'est curieux, puisque les bagnards de Nouvelle-Calédonie ont fait souche, alors que ce n'était pas l'obligation, alors que les bagnards de Guyane n'ont pas fait souche.
Alors donc, les transporter, les déporter pour des raisons politiques, et puis il y a aussi ce qu'on appelait, sous la Troisième République, en 1885, les relégués. C'était quoi, Marion Godefroy?
Alors justement, 30 ans après l'ouverture des bagnes, une nouvelle loi très différente qui décide que si, en l'espace de 10 ans, vous avez 4 condamnations, eh bien dans ce cas-là, vous partez au bagne.
Même pour des délits mineurs?
Pour des délits tout à fait mineurs. Jean Genet, par exemple, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il a cette 4e condamnation et Cocteau se mobilise pour qu'il ne parte pas au bagne. Alors, c'est tout à fait flagrant, puisque vous avez des transportés qui sont des personnes en général plus âgées, des durs, contre des relégués qui sont en général plutôt des enfants, une vingtaine d'années et pas du tout dans le même univers.
Alors transportés, relégués ou déportés, qui arrivaient tous en bateau en Guyane après 3 semaines de voyage.
Garde-vous ! Prisonniers, à partir de maintenant, vous êtes transportés. Vous appartenez à l'administration pénitentiaire de la Guyane française. Enfin, la France, dites-vous bien qu'elle s'est débarrassée de vous. La France ne veut plus entendre parler de vous. Elle vous a renié. Vous avez renié ses lois.
La justice vous a condamné, vous voici au bagne. Ici, ce n'est pas tout à fait l'enfer, mais c'est déjà le purgatoire. Si certains d'entre vous songent à s'évader, qu'ils perdent tout de suite leurs illusions, ici on entre, mais on ne sort plus. Vous connaissez la prison, mais vous n'avez aucune idée du bagne. 2 mois de cachot et vous en sortirez à genoux, aveugle, en arrachant vos dents à la main. Rompez.
À vos places, à chaque manille.
Et c'est ainsi que les bagnards arrivaient donc enchaînés en Guyane, au bagne de Guyane, plutôt les bagnes, car il y avait plusieurs lieux de détention ou plusieurs pénitenciers, Marion Godefroy, en Guyane.
plusieurs lieux et très différents et dans leur implantation géographique et dans le temps. 1854, on ouvre les bagnes. Les bagnards sont principalement aux îles et ils sont à Cayenne.
Les îles du Salut.
Les îles du Salut, qui sont au large de Kourou, d'où on lance actuellement la fusée Ariane. Mais très rapidement, il y a la volonté de les éloigner. Donc il y a des petites fermes qui se mettent en place à Kourou, ailleurs. Et on crée au début des années 1860, Saint-Laurent-du-Maroni. C'est tout au nord de la Guyane. C'est à la frontière avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Suriname.
Oui, et là,
la Guyane hollandaise. Et là, il ne s'y gérait plus de quelques centaines de transportés aux îles ou de quelques dizaines de transportés à Kourou, mais de 2000 hommes qui sont à Saint-Laurent-du-Maroni, dans un camp de la transportation, et qui ont pour but, justement, de développer tout cet espace.
Alors, ils travaillent, puisque c'est une peine de travaux forcés auxquels ils sont condamnés. Alors, c'est un travail extrêmement dur. Vous citez notamment le cas d'une route dont on disait qu'elle était pavée du crâne de ceux qui l'avaient construite.
Alors, la route coloniale numéro 0, ainsi dénommée par Albert Londres, est à Cahun par. Deux choses. Lorsqu'on arrive au bagne, on peut avoir les travaux les plus faciles, c'est-à-dire on peut être greffier, on peut être tout emploi de l'administration, on peut être garçon de famille, tout ce qu'on veut, donc. Mais on peut aussi, si on est en butte contre l'administration, être nommé dans ces espèces de camps de travail. Et cette route coloniale numéro 0, qui est censée relier le nord de la Guyane au sud, parce qu'à l'époque, en Guyane, on circule uniquement par cabotage et par la mer, donc est un véritable enfer, puisque il n'y a pas de moyens, ils n'arrivent pas à la construire, et que quand vous faites travailler des hommes blancs sous un climat équatorial selon des horaires, je dirais, de métropole, vous obtenez bien évidemment des résultats désastreux.
Alors, il y avait l'épreuve de l'éloignement, d'abord, parce qu'on était éloigné à jamais de sa famille, ou en tout cas pour très longtemps. Il y avait aussi la promiscuité. C'était le royaume un peu des caïds, parce que la population du bagne, c'était pas des saints.
Non. La première rupture des bagnards, c'est cette rupture, je dirais, du climat. Imaginez un Lorrain, un Alsacien, un Toulousain, qui d'un seul coup se retrouve sous un climat où il n'y a pas de saison, pas de changement, condamné à vie et à rester là. Première rupture. Deuxième rupture, le royaume des caïds, c'est-à-dire l'univers des bagnes comme l'univers des prisons, s'articule et s'organise autour d'hommes forts, autour de petits services, de petits échanges, d'achats, de marchés noirs. Donc, il faut vivre et passer entre les gouttes de cet univers.
Oui. Alors, il y avait ça, il y avait aussi l'éloignement, les viols également, les caïds, c'était les plus faibles étaient soumis à cette promiscuité qui était assez épouvantable.
C'est tout à fait, parce qu'il faut imaginer aussi comment une partie des bagnards dormait, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas forcément choisir votre voisin. Vous pouviez être condamné dans une sorte de réclusion collective avec une longue barre de fer, attachée, la cheville attachée par une manille, et dans ce cas-là, votre voisin de derrière, si c'était un caïd et si vous aviez 20 ans de moins que lui, il y avait assez peu de chances pour qu'il ne vous arrive rien.
Alors le pire, c'était les récalcitrants, on les envoyait dans les cachots.
Alors, ce que vous appelez cachot, c'est aussi ce qu'on appelle la réclusion cellulaire individuelle. C'est-à-dire, en fonction de votre attitude sur place, vous avez tout un régime de punition et de condamnation. Et si vous commettez un crime, si vous commettez un délit, vous pouvez être condamné à donc 5 ans dans cette réclusion individuelle.
Par un tribunal maritime spécial, parce que ça dépend du ministère de la Marine.
Ça dépend du ministère de la Marine. Cette réclusion est mise en place principalement à partir des années 1889, et ce sont effectivement des cages individuelles sur l'île Royale.
Des conditions effroyables que découvrait le journaliste du Petit Parisien Albert Londres en 1923.
Là, vous voyez, c'est l'île du Diable. Un lieu un petit peu à part. On réserve ça aux politiques. Juste un rocher. Alors, ce qui vous intéresse, vous, ce sont les deux autres îles. Là, on met les fortes têtes, les évadés, les récidivistes. Ici, c'est le fond du bagne.
Le silence et l'isolement, mais rien de plus efficace. Personne n'y résiste.
Raymond Lamotte, ancien bagnard.
Et vous avez connu la cellule. La fameuse cellule où on devient fou.
C'est moi.
6 mois. Dans une petite cellule de 3 mètres sur 2, je crois, c'est ça.
À peine 3 mètres sur 2. On n'a pas le droit de s'asseoir de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Et la promenade entre 3 murs, parce que les cours sont triangulaires. Seul dans une petite cour, pour prendre le soleil, quoi. Pour voir que le soleil existe. Et surtout, reprendre l'espoir. Moi, j'ai toujours gardé l'espoir de m'en aller, quoi. Puis j'y suis arrivé.
Mais on aura paré la belle, la fin, l'allée pour le cachot, le coup de poing des pays chauds. Rien ne sera trop beau pour elle, pour la liberté, les moyens auront notre corps de moyens. Et dans la forêt solennelle, où la mort sonne à chaque pas, même lorsque tu ne viens pas, c'est toi qu'on adore la veille.
La Belle, des paroles d'Albert Londres, chantée par Lucienne Boyer en 1930. La Belle, c'était bien sûr l'évasion ou l'espoir d'une évasion, parce qu'elle était très difficile, Marion Godefroy.
Elle était très difficile, mais elle était souvent tentée. C'est ce qui explique que finalement, beaucoup de condamnés cherchaient à partir au bagne. Dans le dernier convoi de 1936, on se bat pour partir là-bas, puisque vous n'êtes pas enfermé entre les quatre murs d'une maison centrale, vous pouvez à tout moment tenter une évasion. Vous avez un régime de semi-liberté qui fait que tout est possible, ne serait-ce que par l'imagination.
Alors, il y a des évasions absolument extraordinaires, vous en citez quelques-unes. Un certain Carlo de Rudio qui avait tenté d'assassiner Napoléon III, condamné en 1858, il s'évade, il part aux États-Unis et il se retrouve officier dans l'armée américaine. Il a même assisté de loin à la bataille de Little Bighorn avant de terminer ses jours à Los Angeles. Il y a un certain Gustave Baudouin aussi qui s'évade en 1869, il fait tout le trajet par le Trinidad, il va vers les États-Unis puis il revient ensuite en France. Il est repris en 1874 et il est à nouveau condamné.
Il est à nouveau condamné.
On les
poursuivait tout le temps. Vous avez Bouillé-Blazy, par exemple, qui, dans les années 1860, fait sa première évasion des îles du Salut. Et justement, lorsqu'il comparait devant ce tribunal maritime spécial, le tribunal lui dit, c'était quand même une belle tentative d'évasion. Dommage que ça ait échoué. Ce qui est assez étonnant sur les relations. Les évasions, elles se font de tout temps. Faut les payer. Faut trouver un canot. Faut d'abord partir sur la rive adverse du Suriname. Ensuite, au Suriname, petite tolérance. On sait que vous êtes évadé. On vous laisse 24 heures pour quitter le territoire. On remonte l'arc de la Caraïbe. On va vers, donc, Trinidad, Tobago. Et on part. On s'enfuit plus loin encore, jusque vers New York, où il y a un quartier français et où on tente de vivre et de travailler. Avant, parfois, de revenir en France. Et c'est au petit bonheur la chance qu'on vous retrouve et qu'on vous réexpédie au bagne.
Alors, cette volonté de s'évader, elle tient aussi au fait que parfois, on était condamné de toute façon à perpétuité. Il y avait un système terrible qui était ce qu'on appelait le doublage, qui avait été initié par Napoléon III, qui voulait que, au-delà, que les condamnations aillent au-delà des peines prévues.
C'est très étonnant, en effet, mais il faut savoir que si vous êtes condamné à 8 ans de bagne, ou moins de 8 ans de bagne, donc vous faites 7 ans de bagne en Guyane, et puis 7 ans sur place, dans ce qu'on appelle un régime de libération. Bon, en théorie, donc, au bout de 14 ans, vous êtes censé rentrer. Si ce n'est que lorsque se pose la question des premiers retours, Napoléon dit « Ah mais pas question, je veux absolument pas que ces gens-là rentrent en France. » Et c'est le moment où l'idée de la souillure, l'idée de Jimmy Jeanne arrive, et on décide donc qu'ils resteront au bagne. Et pour tous ceux qui étaient condamnés à plus de 8 ans de transportation et de travaux forcés, ils devaient rester à vie dans la colonie.
Alors, ils y resteront, en tout cas, jusqu'à ce que la colonie disparaisse en 1938. D'ailleurs, on a même prolongé, parce que en 1938, pour quelle raison, d'ailleurs, supprime-t-on le bagne? Est-ce que c'est pour des raisons humanitaires? Est-ce que c'est à cause des articles de Albert Londres, qui avaient vraiment eu beaucoup de succès, ou épouvanté un peu les gens qui les lisaient?
Alors, les articles d'Albert Londres, comme vous le rappeliez, ce sont les années 20, 1923-1924. 15 ans après, seulement, le bagne est supprimé. Donc, ce n'est pas une influence directe. Ce qu'il se passe, c'est que le bagne coûte très cher. Il coûte très cher car il vit entièrement sur la métropole. Il faut tout importer, les vareuses, la nourriture, et il n'est pas économiquement rentable, c'est-à-dire qu'il est censé produire un certain nombre d'effets, évidemment, qui ne sont jamais produits. Donc, vous avez particulièrement Gaston Monnerville, qui est alors député, et qui,
de Guyane,
utilisant le contexte international particulier, va, à la faveur de l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, passer ce décret de suppression.
Alors, la peine de condamnation au bagne est supprimée, mais en revanche, les bagnards vont rester jusqu'à l'extrémité de leur peine, ce qui s'y trouve déjà jusqu'en 1953. C'est-à-dire ce qui explique l'évasion en 1940 d'un certain Papillon dont on reparlera. En tout cas, ce bagne disparaît, la condamnation au bagne disparaît en 1938.
Le gouvernement français va déposer un projet de loi relatif à la suppression du bagne.
Bonjour messieurs. Je peux vous annoncer officiellement que par décret du 3 juin 1938, le bagne est définitivement supprimé par extinction. Ouais ! Je crains, messieurs, que vous n'ayez pas suffisamment prêté attention à la formule par extinction. Elle signifie qu'on n'enverra plus personne au bagne, certes, mais elle signifie aussi que ceux qui y sont déjà sont condamnés à y rester.
Rompez les rangs !
Papillon.
Si on condamne un homme à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans ou à perpétuité, ce n'est pas du tout pour le dissoudre. Et virtuellement, on le dissout. Par la folie, ou par la misère physiologique, ou par le suicide, ou par la lèpre ou la tuberculose. Ce système médiéval d'assassiner les gens sans guillotine, c'est très grave ça pour une société, et particulièrement pour un pays comme la France, qui a toujours été, en dehors de son système pénitentiaire, une nation généreuse, une nation qui a distribué dans le monde entier des pensées très élevées.
Et c'était Henri Charrière dit Papillon en 1969, je crois que c'était au micro de Jacques Chancel, il s'était évadé en 1940, après la fermeture du bagne, mais comme en principe il devait y rester comme tous les détenus qui s'y trouvaient jusqu'en 1953, il s'est évadé, une évasion que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler grâce à ce fameux livre, un peu romancé, hein, dites-vous, Marion Godefroy.
Assez romancé, mais finalement très instructif. Instructif puisque Papillon reprend toutes les légendes qui courent dans les bagnes. La façon dont il s'évade des îles du Salut et la façon dont Blaisy s'est évadé dans les années 1860. Donc, ce qui signifie qu'entre les condamnés, de génération en génération, il y a des histoires qui passent. Et donc, on retente, on entretient tout cela. Et d'autre part, c'est très intéressant, ce succès de Papillon. Mauriac dit justement qu'il a son livre sur la table de nuit. Il y a des publicités qui comparent Papillon et qui disent qu'il a déjà 250 000 lecteurs et qui sont des enzymes gloutons qui ont avalé tout ce roman-là. C'est un grand succès dans une France qui est un an après les événements de 1968, qui est au cœur de l'été et qui finalement va revenir sur toute cette histoire pénitentiaire.
Mmh. Et relancer donc cet intérêt pour le bagne. Est-ce qu'on peut dire, ce matin dans le 6-7 de France Inter, j'avais comparé bagne de Guyane à un goulag français. Il y a même un auditeur qui s'en est un peu offusqué. Est-ce qu'on peut dire que c'est notre goulag, en quelque sorte, ou que c'était notre goulag?
Votre auditeur avait raison. Ce n'était pas un goulag, puisqu'il y avait tout de même des volontés de colonisation, des volontés de développement, et qui ne répondaient pas uniquement à une mesure politique. C'est une condamnation pénale. Elle est prononcée par un tribunal en France. Elle répond à un certain ordre des peines. Alors que le goulag, on est sur des critères qui sont complètement différents. Il n'y a pas du tout de développement économique, Solzhenitsyn y est parti. Il y a une dimension politique qui est première, qui n'était pas le cas des bagnes de Guyane.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces bagnes? Maintenant, c'est un lieu touristique, on va les visiter.
Pour autant qu'on puisse visiter la Guyane, oui. Parce qu'il faut quand même y aller. Alors, c'est paradoxal, puisque ça dépend des Guyanais. Donc, mettre en valeur un patrimoine qui est quand même, comme le disait Monerville, un champ cri d'eux sur un visage, c'est pas tout à fait le cas. Il y a encore les îles. On voit un petit peu ce qui s'est passé. Et surtout, cet immense pénitencier de Saint-Laurent-du-Maroni.
Merci Marion Godefroy. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre Bagnard, qui vient d'être publié aux éditions Talendier. On a pu entendre des extraits des téléfilms suivants: L'affaire Seznec d'Yves Boisset, édité par TF1 Vidéo, et Cayenne, les amants du bagne de Thierry Binisti, ainsi qu'une archive pâtée de 1937 disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pierrick Monsigny et Henri Bérec. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la sortie du film Les femmes de l'ombre, les femmes dans la résistance.
France Inter présente Adèle, 19, la révélation soul folk anglaise. Retrouvez Adèle et ses premières chansons dans les émissions et le programme musical de France Inter.
Alloué, depuis 50 ans, rien n'a changé.
Alain Alinan, éleveur, président des fermiers de Loué.
Ni le bon goût, ni l'élevage en liberté, ni le bon grain à volonté. C'est même pour ça que Loué est le poulet préféré des Français, et ça, c'est pas prêt de changer.
Loué, le bon goût depuis toujours.
Dans quelques instants, Mathieu Vidard et cette époque carrée avec un personnage historique aujourd'hui, Benjamin Franklin. Mais tout de suite sur France Inter, il est exactement 14h. Les informations, Bruce de Galza, bonjour.
Bonjour. Pas satisfaisant, l'entretien entre la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, et le président de l'UIMM, Frédéric Saint-Jour. Rien n'avait filtré jusque-là de cette rencontre au sommet, mais en toute discrétion, dans les locaux du MEDEF en début de matinée. Et finalement, un porte-parole de l'organisation patronale vient d'indiquer que c'est la question des mandats qui ne satisfait pas la patronne des patrons. Laurence Parisot avait demandé à l'UIMM de remettre à disposition du MEDEF la centaine de mandats nationaux qu'elle détient dans différents organismes. L'UIMM a refusé, Frédéric Saint-Jour a dû le confirmer ce matin au cours de l'entretien. Cette affaire, en tout cas, Denis Gauthier-Sauvagnac en a ras la casquette. Le Monde révèle dans son édition datée de demain que DGS a lancé devant le bureau de l'organisation patronale